Radio Kapi. Oh, Kapi.
Reprise timide des cours à Goma au Nord Kivu ce jeudi. Hier, élèves et enseignants ont paniqué à la suite d'une rumeur sur le recrutement forcé des enseignants et des élèves par le M23. Les activités scolaires ont ainsi été perturbées. Plus de 20 personnes ont été tuées depuis mardi par les rebelles des ADF dans une dizaine de villages dans la chefferie de Babila-Bakwanza, territoire de Mambasa en Ituri. Ces nouvelles attaques interviennent après environ 3 mois d'accalmie, dit la nouvelle société civile congolaise locale. Safia Ibrahim, coordonnatrice en RDC de l'AFD, agence française de développement, est l'invitée de ce journal. Avec Billy Yvan Lutumba, elle revient sur les grandes lignes de l'appui de cette agence au gouvernement congolais dans le cadre d'un projet de partenariat en matière de croissance durable et inclusive. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. À Goma, les activités scolaires ont timidement repris ce jeudi après les perturbations de la veille. Des rumeurs de recrutement forcé d'enseignants et des élèves par le 1-23 avaient semé la panique dans les établissements scolaires. Bien que ces rumeurs se soient avérées infondées, de nombreux parents ont préféré garder leurs enfants à la maison aujourd'hui par mesure de prudence. Comment cette rumeur a-t-elle pris une telle ampleur et dans quelles conditions les élèves poursuivent-ils leurs études à Goma? Babel Pongo nous a rejoint dans ce studio pour en parler. Bonjour Babel.
Bonjour Noïla Lozitoukabambi.
Quelle ambiance prévaut dans les écoles de Goma à la mi-journée de ce jeudi?
Alors Noïla, selon le responsable d'établissement scolaire contacté sur place, il n'y a qu'un tiers des élèves en moyenne qui étaient présents ce matin. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas commencer de nouvelles leçons, explique le directeur d'une école primaire. Nous prenons le temps d'écouter les inquiétudes des élèves et de les encourager. Après la récréation, les enseignants proposeront des exercices car il est impossible de débuter un nouveau chapitre dans ce contexte, précise ce responsable.
Revenons à la panique d'hier dans les écoles de Goma. Que s'est-il réellement passé?
De nombreux témoignages concordants à Goma confirment que des hommes du 1-23 effectuent des fouilles dans les écoles à la recherche d'équipements militaires qui auraient été abandonnés. Parallèlement, des informations non confirmées circulent en ville concernant des recrutements forcés des jeunes. Dans une école, des hommes du 1-23 alertés par des informations sur la présence d'équipements militaires ont effectué une descente. Les responsables de l'établissement ont affirmé que ces équipements avaient été remis aux autorités locales. Ils ont ensuite accompagné les hommes du 1-23 au domicile du chef de quartier pour justement confirmer leur version des faits. En voyant les responsables scolaires quitter l'école en compagnie des hommes du 1-23, des élèves ont pris peur et ont fui, certains en escaladant le mur, craignant que leur responsable ne soit enrôlé de force. Une vidéo de la scène a circulé d'ailleurs, sémant la panique dans toute la ville et entraînant la fermeture de plusieurs écoles, Noïla.
Et pourquoi cette rumeur a pris une telle ampleur, Babel?
Il faut dire qu'à Goma, la peur est omniprésente. Les souvenirs des massacres, notamment ceux des personnes exécutées en groupe près du camp Katindo, ont profondément traumatisé la population. Sur les réseaux sociaux, cette angoisse s'exprime à travers des messages comme « Si je vois quelqu'un derrière moi courir, je ne pose pas de questions, je cours d'abord, on verra la raison après ». Dans ce climat de tension, Noïla, la diffusion de la vidéo montrant des élèves sautant par-dessus un mur a ravivé la peur lente, déclenchant une panique généralisée. Ainsi, à Goma, l'urgence pour chacun est avant tout de survivre.
Comment les élèves vont-ils poursuivre leurs études dans un tel environnement?
Eh bien, ce jeudi avant-midi, les responsables de l'éducation nationale ainsi que les directeurs des écoles publiques et privées ont été convoqués pour une participation à une réunion au gouvernorat. Dans l'après-midi, l'Association nationale des écoles privées agréées à Sonipa, section du Nord Kivu, a également convoqué tous les promoteurs et gestionnaires des écoles privées à une rencontre similaire. L'objectif de ces cadres de concertation est de trouver des solutions pour protéger les élèves et leur permettre de terminer l'année scolaire. Le directeur d'une école publique nous a partagé ce matin son souhait que les personnes en uniforme militaire et les armes soient interdites d'accès aux écoles afin de ne pas traumatiser davantage les élèves qui sont déjà confrontés à des expériences difficiles pour leur âge.
Merci beaucoup Babel. Toujours par rapport à Goma, un mois s'est écoulé depuis que la ville est tombée aux mains du M23 AFC. C'était le 27 janvier dernier, à l'issue d'intenses combats qui ont plongé la population dans l'incertitude et la peur. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place? Blaise Shindani Kambala.
Goma, siège des institutions provinciales, reste sous occupation rebelle. Une administration parallèle y a été mise en place avec la nomination d'un gouverneur, d'un maire et de nouveaux responsables des services de sécurité et de renseignement. Désormais, c'est cette structure de facto qui contrôle la gestion de la ville. Dès les premiers jours de l'occupation, des centaines de familles ont fui Goma vers les pays voisins Rwanda, Ouganda et Burundi, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans différentes provinces du pays. Par ailleurs, la majorité des sites des déplacés ont été démantelés, obligeant leurs occupants à regagner leur village d'origine, parfois en dépit de l'insécurité. Un mois après, la vie reprend timidement, mais au ralenti. L'économie locale est gravement affectée, l'argent circule peu, les banques et les institutions financières restent fermées et les échanges commerciaux sont perturbés. Cette situation fragilise davantage le pouvoir d'achat des habitants et aggrave la précarité. Sur le plan sanitaire, les hôpitaux continuent d'accueillir un grand nombre de blessés de guerre. Les organisations humanitaires alertent sur les risques imminents de rupture des stocks de médicaments en raison des difficultés d'approvisionnement. En matière d'activité scolaire, les écoles ont réouvert il y a 2 semaines, mais les cours restent perturbés. Côté transport, certains axes routiers sont de nouveau praticables et le trafic lacustre entre Goma et Bukavu a repris. Cependant, l'aéroport de Goma demeure fermé, isolant encore plus la ville. Face à cette situation, les habitants de Goma vivent dans une incertitude persistante, sans perspective claire quant à l'évolution de la crise.
En RDC, 2,54 milliards de dollars, c'est l'enveloppe nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays pour cette année. C'est ce qui ressort du plan de réponse humanitaire 2025 lancé ce jeudi à Kinshasa par le gouvernement congolais et la communauté humanitaire. Cette enveloppe va permettre d'assister 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de déplacés internes parmi les 21,2 millions de Congolais affectés par des crises multiples. Le point avec Rosalie Zawadi.
Cette année, la réponse humanitaire vise à satisfaire les besoins les plus urgents. Les plans prévoient, par exemple, de prendre en charge 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, de garantir l'accès à l'eau potable pour 5 millions de personnes et de lutter contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole et l'mpox. Cependant, tous les signaux d'alerte sont au rouge, alerte Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC. Dans un contexte marqué par des violences extrêmes, la protection des civils et des plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, restera une priorité absolue dans toutes les interventions. Cependant, la forte diminution des contributions met en péril l'aide humanitaire. L'année dernière, selon OCHA, les plans de réponse humanitaire a été financé à hauteur de 51%, ce qui a permis à 7,1 millions de personnes de bénéficier d'une assistance humanitaire. Toujours en 2024, ce sont les États-Unis qui ont couvert 70% du financement du plan de réponse humanitaire en RDC.
En Ituri, au moins 20 personnes ont été tuées depuis mardi par les rebelles des ADF qui ont fait incursion dans une dizaine de villages dans la chefferie de Babila-Bakwanza, dans le territoire de Mambasa. Selon la nouvelle société civile congolaise, c'est la première attaque de ces rebelles dans cette chefferie depuis le début de cette année, après une accalmie d'environ 3 mois. L'administrateur du territoire de Mambasa indique que l'armée est à la poursuite de l'ennemi. Martial Kizabiamungu.
Les rebelles des ADF ont d'abord attaqué mardi les villages de Pessa, Kadika, Mekanya, Bawenzi, Bendenge et Leta. Le lendemain, un autre groupe de ces rebelles a fait incursion au village de Kredi, Gbadou, Balisoma, Mikingi, Samboko et Matolo, situés le long de la rivière Ituri. La nouvelle société civile congolaise de Mambasa indique que ces rebelles ont tué au moins 20 personnes et une vingtaine d'autres sont prises en otage, dont des enfants. Son coordonnateur Jean-Spé Paloukou, qui cite le chef du village Matolo, indique que la recherche d'autres corps se poursuit dans la brousse.
Nous recommandons au gouvernement congolais ici de relancer encore les opérations conjointes UPDF-FARDC dans la traque des rebelles ADF Nalo en territoire de Mambasa. Parce que l'ennemi semble revenir avec une agressivité encore farouche.
L'administrateur du territoire de Mambasa ne confirme pas à ce stade ce bilan. Jean-Baptiste Miapandi indique que l'armée et depuis hier à la poursuite de l'ennemi. Ces attaques ont occasionné le déplacement des populations vers des milieux plus sécurisés. Bounia Martial Kizabiabongo, Radio Okapi.
Les étudiants de Lubumbashi sont appelés à cultiver l'esprit patriotique dans leur vécu quotidien. L'appel est du commandant de la 22e région militaire. Le général de brigade Eddy Kapend l'a fait savoir hier au cours d'une série de conférences qu'il a animées sur le patriotisme et la citoyenneté. À l'ISP Lubumbashi, il a indiqué que la science est la lumière de la société et tous ceux qui composent cette société doivent vivre en harmonie. Pour sceller les relations civilo-militaires, il a demandé pardon pour le mauvais comportement vis-à-vis de la population civile de certains soldats qui sont sous son commandement. D'autres détails avec Jean Gandou.
Le commandant de la 22e région militaire a indiqué qu'il a choisi ce milieu pour éveiller la conscience du personnel enseignant et des étudiants. D'après lui, les jeunes étudiants sont souvent manipulés par des personnes mal intentionnées pour assouvir leur soif. Pour cela, ils doivent être éveillés pour barrer la route à tous ceux qui tenteraient de le faire. Il a par la suite demandé aux professeurs et aux étudiants de bannir le tribalisme et toutes sortes de séparatisme. À la place, ils doivent cultiver l'amour de la patrie tout en sachant qu'en tant que citoyens, ils ont le droit et les obligations, notamment le droit de jouir de la protection et de tout ce qui concourt à leur bien-être et d'exercer leurs droits dans le respect des lois du pays. Cependant, en tant que citoyens, ils ont l'obligation d'aimer le pays et de le défendre, de ne jamais le trahir en collaborant avec l'ennemi, surtout pendant ce temps où le pays est en guerre. Pour le général Eddy Kapend, les relations civilo-militaires doivent être entretenues et le civil ne doit pas considérer un soldat comme un bourreau, mais plutôt comme un protecteur, un frère. Et le civil ne doit pas être vu par les soldats comme une proie, car le militaire est l'émanation de la société civile et il y retournera après le travail sous les drapeaux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Clôture hier à Kinshasa de l'atelier des institutions nationales et régionales des droits de l'homme, INDH, des États de la SADC et de l'EAC. Organisé par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sous le thème « La contribution au retour de la paix dans la partie est de la RDC », l'atelier a connu des moments forts, marqués notamment par le partage d'expériences de INDH. Elles ont formulé quelques recommandations que nous livre ici un des participants aux travaux. Ces propos ont été recueillis par Jeff Ngoy.
Les INDH des États de la SADC et de l'EAC ont exprimé leur solidarité à la population de la RDC victime de graves violations des droits humains. Ledit atelier a connu des moments forts marqués par les représentations des éminents orateurs, le partage d'expériences des INDH et des travaux en groupe. Parmi les recommandations, notons l'arrêt immédiat des hostilités et des violations des droits de l'homme, la collaboration étroite des parties prenantes pour contribuer au retour de la paix dans la partie est de la RDC, le soutien aux efforts visant à mettre les auteurs de crimes et violations des droits humains devant leurs responsabilités.
La poliomyélite reste une maladie préoccupante. Au Kasaï central, le coordonnateur du Programme national pour la santé indique que dans cette province, il y a encore des cas notifiés et cela nécessite une vaccination des enfants comme mode de prévention. Indiquant que la poliomyélite peut rendre l'enfant infirme pour toute sa vie, Bernard Nguindou souligne que deux modes de vaccination sont envisagés dans cette province. Il s'agit de la vaccination de routine et celle de masse. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Nous, on a voulu mener y aller dans deux sens. Tantôt, c'est bien sûr mener les avis avec le plan Machak où on fait maintenant la vaccination des routines. Donc là, on a ciblé peut-être quelques zones parce que par là, il y avait maintenant les cas. Et néanmoins aussi, nous tenons aussi compte aussi maintenant de campagne aussi des masses. Maintenant, ça dépend. Mais dans d'autres provinces, ils sont allés jusqu'à 15 ans. Mais ici, chez nous, jusque là, c'est tranche d'âge des enfants de 0 à 5 à 9 mois. C'est là que nous allons tenir compte. Tenant compte maintenant de ce que nous disons, parce que c'est paralysie bisque. Quand maintenant l'enfant, il était dans de rappeler qu'on soit là-bas, il marche à un certain moment, il tombe par terre, il ne marche pas. Et de suite, c'est là qu'il fallait maintenant que nous puissions au moins lutter pour que maintenant les enfants là soient vraiment bien vaccinés pour maintenant les préventions.
Actualité internationale. La capitale bissau-guinéenne, où un important dispositif de sécurité est déployé depuis hier soir, était calme ce jeudi matin, alors que l'opposition a appelé à la paralysie du pays à partir de ce jeudi, jour où, selon elle, le mandat du président Embalo devrait prendre fin 5 ans après sa prestation de serment. Dans certains quartiers, des parents ont toutefois décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Safia Ibrahim. Elle est coordinatrice en RDC de l'AFD, Agence française de développement. Dans un entretien avec Billy Ivan Lutumba, elle revient sur les grandes lignes de l'appui de cette agence au gouvernement congolais, notamment dans le cadre du protocole d'entente pour un partenariat stratégique en matière de croissance durable et inclusive entre la RDC et l'AFD, évalué à plus ou moins 558 millions d'euros pour la période allant de 2021 à 2022. Safia Ibrahim, coordinatrice de l'AFED, s'entretient avec Billy Ivan Lutumba.
Madame Safia Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous évaluez les actions de l'AFD en République démocratique du Congo. Pouvons-nous savoir les grands axes dans lesquels vous intervenez en tant qu'AFD en RDC?
L'agence française est l'opérateur pivot de l'État français ici en RDC. On est un bailleur. On apporte de l'expertise, on apporte du financement, on apporte un savoir technique et financier pour appuyer, contribuer au développement national de la RDC. Donc, c'est pas nos priorités, c'est les priorités du gouvernement. En fin 2021, on a signé un protocole dans lequel la France, via le groupe AFD, s'engageait à mobiliser 500 millions sur 4 ans. Pour appuyer les secteurs prioritaires du plan national de développement du pays.
Notamment
l'agriculture, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de dire qu'on a tenu nos engagements. On s'est engagé à 500 millions. On a largement dépassé. On est aujourd'hui à près de 560 millions. Et dans ce 560 millions, vous retrouverez les projets octroyés en œuvre, donc ils vont délivrer d'ici quelques années, d'autres très rapidement d'ici cette année. C'est le cas du projet santé d'ici à la fin de l'été.
Avant d'entrer dans les différents secteurs dans lesquels vous intervenez, d'où proviennent les financements que l'AFD apporte pour ces différentes interventions en RDC?
Depuis que la RDC a signé un accord avec le FMI et donc est engagée dans cet agenda de réforme, l'AFD a la possibilité de faire des prêts préconcessionnels, presque zéro, à la RDC, comme la Banque mondiale ou la BAD. Donc c'est l'argent de contribuables congolais. Quand vous faites du prêt, c'est le pays, parce que le pays rembourse, et je dois le dire.
Et à quel taux? À quel taux de remboursement?
À de taux presque zéro, parce que c'est des prêts préconcessionnels. Et ce que je peux dire, c'est que la RDC est un pays qui rembourse. Pour l'AFD, la RDC n'a jamais manqué depuis qu'on a repris nos prêts, ou même l'instrument, ce qu'on appelle les contrats de désendettement. Aujourd'hui, à date, jamais la RDC n'a manqué un seul moment, une seule dette. Sur le 560 qu'on a octroyé, il y a un peu plus de la moitié qui sont dedans. Dedans qui viennent de l'Union européenne, parce que nous gérons des fonds pour l'Union européenne, pour investir dans la gouvernance financière, pour le partenariat mondial de l'éducation, pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. Nous gérons dedans qui viennent de CAFI, le fonds vert, et l'argent de contribuables français, de l'argent congolais, de l'argent français, de l'argent européen et de l'argent international.
Et quels sont les grands succès de tous ces projets dans lesquels vous êtes intervenu, que vous pouvez considérer vraiment comme des réels succès?
Aujourd'hui, c'était l'occasion de faire le bilan de ces 4 ans. Mais je peux vous dire qu'en 4 ans, des projets dont je suis fière, parce que nos équipes, les équipes du ministère de la Santé également, de Congolais, ont bien travaillé. On avait mobilisé une entreprise française, on avait mobilisé des ONG congolaises, des ONG françaises. C'est le centre de santé de maternité de Kinshasa. C'est un projet qui me touche particulièrement. C'est un projet qui permet de montrer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter de l'excellence pour les plus vulnérables. C'est pas à vous que je vais apprendre. Le quartier Changou, Chine populaire, c'est un des quartiers les plus vulnérables de la province de Kinshasa. C'est un des quartiers où vous avez un taux de pauvreté qui est très élevé. Et pourtant, c'est là où vous trouvez le centre de santé de maternité avec des équipements de standard le plus haut niveau. C'est 3000 accouchements, et depuis qu'on a réhabilité, qu'on a rénové, qu'on a équipé, formé personnel, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés de la province, il n'y a pas de là en mortalité constatée, alors que c'était un taux qui était très élevé de taux de mortalité à l'accouchement.
On a abordé beaucoup plus des aspects succès, une illustration des succès, mais où est-ce qu'il y a des grains de sable dans l'engrenage dans ce que vous faites?
Le système se bloque quand notre partenaire pense que c'est à l'AFD de faire.
Le gouvernement donc?
Notre partenaire sectoriel, parce qu'ils avaient deux ministères qui marchent. Nous, notre premier ministère sur lequel on adore, moi j'adore le ministère des Finances. Les ministères sectoriels, pour nous, c'est là où on impacte. Donc, quand nous avons un ministre, une administration qui comprend que c'est à eux de faire et que nous sommes à leur côté, que nous apportons de financement, il n'y a pas. Mais quand ça s'inverse et on dit « Ah, j'attends que le bailleur fasse », c'est là où il y a des grains de sable. Parce que c'est pas un bailleur qui fait. Un bailleur apporte une expertise, apporte de financement, ou finance une expertise, mais il ne le fait jamais à la place du bénéficiaire. Il le fait jamais à la place, pardon, de la maîtrise d'ouvrage.
Ça tient, Ibrahim, en disant merci.
Mais je vous remercie vraiment, je vous remercie.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin. Un journal présenté par Noéla Luzito Kabambi. La mise en onde est assurée par Billy Landry Betou, le tout sous la coordination et la supervision de Élisée Chikota Chivueta.